matin.
Que la Mauricie se lève.
Salut Patrick.
Salut Catherine.
Bienvenue officiellement.
Merci, merci.
On s'est déjà parlé, mais là, c'est comme officiel. Alors, on est bien heureux et avoir les commentaires. Je pense que je ne suis pas la seule ce matin.
Excellent.
Patrick, je veux qu'on parle un petit peu de Catherine Fournier, de son entrevue hier à Tout le monde en parle et du fait que ce matin également, on apprend qu'il y en a qui l'appuient. Elle trouve écho de plusieurs jeunes péquistes. Penses-tu que chez les jeunes, notamment, qui croient encore en la souveraineté, elle est représentative?
Bien, elle est représentative si ils ne sont pas déjà chez Québec solidaire.
Oui, c'est ça. Hein?
Parce que, écoute, on peut juste parler de ce qu'on connaît. Moi, écoute, quand j'étais jeune, disons, si tu étais un jeune engagé, puis tu voulais t'engager dans la vie politique, disons que si tu étais un peu progressiste au Parti québécois que tu allais.
Ouais.
Il y avait le Parti libéral, sinon. Aujourd'hui, Québec solidaire a réussi en une dizaine d'années à s'imposer comme une alternative progressiste qui est très attrayante chez les jeunes. Donc aujourd'hui, le Parti québécois est à peu près pas le seul endroit où des jeunes qui sont pas à droite, qui sont plus progressistes, plus à gauche, peuvent aller. Donc ça, c'est venu brouiller la donne. Donc ce que Mme Fournier décrivait hier, tout le monde en parle, ce qu'elle a décrit la semaine passée, c'est dans le fond, moi je trouve que ces constats ont beaucoup de bon sens. C'est connu dans la famille souverainiste. Sauf que, est-ce que ceux à qui tu parles, est-ce qu'ils sont déjà à Québec solidaire? Et ceux qui sont jeunes, progressistes, mais qui ne veulent pas être à Québec solidaire, mettons, y en a-t-il assez pour dire on va faire un autre parti qui n'est pas le Parti québécois? Ben ça, écoute, les électeurs jugeront, mais moi, je ne vois pas un gros marché de ce côté-là.
Non, pour toi, c'est-tu clair que Jean-Martin Hossain est derrière elle? Pour toi, ça a-tu été clair dès la semaine passée?
Ben, écoute, c'est quoi être derrière elle? Est-ce qu'il est le marionnettiste? Moi, je pense pas.
Non.
Est-ce qu'il y a beaucoup de discussions, Jean-Martin Hossain, qui sont initiées par des souverainistes? Je pense que oui. Je pense que quand t'es souverainiste, jeune ou vieux, et tu t'as des idées, ben, Hossain, c'est une des je sais pas moi, de la demi-douzaine de souverainistes à qui tu veux parler. À partir de là, est-ce que c'est Jean-Martin Hossain qui téléguide Catherine Fournier? J'en doute. Et de toute façon, je reviens à ça. Il n'y a pas. Le marché n'est pas très gros. Moi, je pense que si Catherine Fournier. Si Catherine Fournier, ce qu'elle fait là peut être efficace, c'est si un jour le Parti québécois se dissout. Parce que si tu veux partir à un autre parti, tu as de moins en moins de souverainistes. En tout cas, tu as de moins en moins de Québécois pour qui la souveraineté est une priorité absolue. Tu crées un autre parti, mais tu vas créer un troisième parti en plus de Québec solidaire puis en plus du Parti québécois. Ça commence à faire beaucoup d'autobus pour pas beaucoup de passagers.
Patrick, je vais faire un lien avec les jeunes parce que, bon, vendredi, grande manifestation, puis c'était aux quatre coins du globe, des centaines de milliers de jeunes qui sont descendus dans la rue pour attirer l'attention des gouvernements sur les enjeux liés au changement climatique. Puis j'aimais ça hier parce que lorsqu'on s'est parlé un petit peu, tu revenais en arrière. Tu sais, souvent, les grandes manifestations, les grands changements, c'est passé par les jeunes. Tu faisais référence à la loi 101. C'était ça, Patrick?
Bien, il y a 30 ans, là, je pense que c'est... Écoute, dans mon souvenir, là, je vieillis, là, fait que je me trompe d'une année ou deux, là, OK? Mais c'est 88 ou 89. À mon école secondaire, comme dans plein d'autres écoles secondaires au Québec, il y a des élèves qui lancent une sorte de débrayage spontané pour la loi 101, pour protester contre une décision de la Cour suprême du Canada qui invalide des pans de la loi 101 à l'époque que Robert Bourassa était au pouvoir. Et ça trahit, je te dirais, une grande préoccupation à l'époque dans la société québécoise. Hein. Écoute, la charte de la loi 101 a à peine... La charte de la langue française a à peine 10 ans à cette époque-là. Donc, ils descendent pourquoi? Ils descendent pour l'identité, ils descendent pour la langue, ils descendent pour une loi qui est un symbole. Et là, 30 ans plus tard, 30 ans et des poussières, Catherine, pourquoi les jeunes sont descendus dans la rue? Ils sont pas descendus pour l'identité, ils sont pas descendus pour la langue, ils sont descendus dans la rue pour, en tout cas au Québec, pour l'environnement, pour sonner les cloches des gouvernements. Et ça, pour moi, il y a un symbole là-dedans. Il y a deux axes présentement dans la vie politique au Québec, au Canada. Puis, tu as l'identité qui est très, très forte dans toutes les questions d'identité québécoise, mais aussi l'environnement. Même si on a un gouvernement qui a été élu le 1er octobre, qui n'a pas fait campagne sur l'environnement, qui ne montre pas de grandes préoccupations environnementales, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un gros marché électoral à aller chercher là, éventuellement. Puis tu le vois avec les jeunes.
Ouais.
Ces jeunes-là, dans quelques années, vont voter. Ben, les partis qui veulent aspirer au pouvoir ou influencer le débat politique vont devoir leur parler, qu'on soit d'accord ou pas. Avec le discours sur les changements climatiques, qu'on soit d'accord avec le fait que changer nos modes de vie vont y changer quoi que ce soit. Il y a quand même des jeunes, on l'a vu vendredi, qui veulent que les choses changent.
T'as pensé quoi de l'entrevue de Brian Mulroney? Tout le monde en parle. Il semble que sur Donald Trump, Patrick, il est rarement allé aussi loin que ce qu'il a été hier.
Ben écoute, premier constat, les politiciens au Canada, vieillissent bien. Jean Chrétien m'a déjà dit ça un jour. Il dit « Mes successeurs se sont chargés de bien me faire paraître. » et j'ai pensé à ça en voyant Brian Mulroney hier. Ce que je veux dire par là, c'est que tu sais, Brian Mulroney a démissionné un peu avant l'élection de 1993. Il a laissé la place à une course au leadership chez les conservateurs. C'est Kim Campbell qui a gagné. Et, écoute, les conservateurs ont été éradiqués. C'est-à-dire qu'ils ont gardé deux sièges à cette élection-là. Ouais. Et Brian Mulroney était à peu près, c'était une figure risible dans la vie politique canadienne. Et maintenant, avec le recul, quand on regarde ce qu'il a fait, avec l'avantage de quelques décennies, ben on constate que cet homme-là a bien fait les choses. C'était quelque chose comme un homme d'État. Pas parfait du tout. Il y a quelques tâches à son dossier, notamment toute la saga de l'homme d'affaires Caroline Schreiber, ouais. Là, donc ouais. Il aurait pris de l'argent en cash. Mais quand tu fais le bilan, tu regardes ça et tu te dis, écoute, je pense qu'il était là pour les bonnes raisons. Sur Donald Trump, tu sais, quand je te dis que c'est un homme d'État, Brian Mulroney, en coulisses, de concert avec le gouvernement de Justin Trudeau, s'est activé pour sensibiliser ses réseaux américains, parce qu'il y a, il y a beaucoup de contacts aux États-Unis dans la vie politique puis dans la vie économique, ben il a sollicité ces gens-là pour leur faire voir l'avantage d'une relation intelligente avec le Canada, relation que Donald Trump a beaucoup piétinée. Donc, hier, là-dessus, sur Donald Trump, moi, j'ai trouvé qu'il est allé plus loin qu'il n'était jamais allé auparavant, notamment dans les négos sur la renégociation de l'accord de libre-échange nord-américain. M. Mulroney était extrêmement prudent, extrêmement diplomate.
Ouais.
Et hier, sans lui passer le gant dans le visage, comme on dit au hockey, a eu des mots qui étaient plus durs que ce qu'on a entendu de lui dans la dernière année.
Patrick, je veux te faire entendre un extrait de Dan Bigra hier à La Vraie Nature. On connaît évidemment le passé de Dan Bigra. Il en a souvent parlé de la violence qu'il a subie. Mais hier, il est allé plus loin. Voici un condensé de ce qu'il a dit, puis on va y revenir ensemble.
C'est ton père, ta mère. Comment ils s'appellent?
Julien et Mireille. Ma mère avec les trois monstres. Je suis à droite, mon petit frère Jean-François, puis mon petit frère Guillaume, qui n'est plus avec nous maintenant.
Et pourquoi tu dis que ton enfance était contradictoire?
Beaucoup de violence, puis beaucoup de tendresse aussi. Les trois enfants, je pense qu'on s'est sentis très aimés par mon père. Puis il était violent physiquement avec moi.
Mais est-ce qu'il y avait de l'amour dans la maison, autant entre tes parents qu'envers les enfants?
Il n'y en avait pas avec ma mère. En fait, il n'y en avait pas de visible. Moi, j'ai jamais eu une main dans les cheveux ou un câlin, un bisou, rien. C'était ma mère la vraie violente. Mon père travaillait de 7 h du matin à 7 h du soir. Fait qu'il avait très peu de temps pour boire sa bouteille de vin le soir. Fait qu'il buvait vite au souper. Puis là, elle pompait. Jusqu'à temps qu'il me pousse une volée. Pendant qu'il me frappait, là, elle pleurait. Julien, arrête, je te marre. Tabarnak. Mon père était violent, mais il m'aimait profondément. Il m'a toujours aimé.
Patrick, quand j'entends ça, je te le dis, j'en ai froid dans le dos. Tu sais, quand on dit que la violence, ça laisse des traces, encore aujourd'hui, tu l'écoutes puis tu fais ouf. T'en penses quoi de tout ça?
Bien, je regarde la vie de Dan d'abord. C'est un résilient, Dan Bigra.
Ben,
hein?
Oui.
Il est encore parmi nous.
Ouais.
Il raconte, ben, son frère n'est plus avec eux. Mais tu regardes son parcours de vie, il y a eu de l'autodestruction pendant plusieurs années. C'est un miracle que ce gars-là soit encore parmi nous. Et ce que ça montre, c'est quelque chose qu'on devrait dire puis répéter. L'enfance, c'est tellement important. Tu sais, quand on dit que tout se joue de 0 à 5 ans, je ne sais pas si... Je ne sais pas si c'est un buzz de marketing, mais si tu ne donnes pas d'amour à tes enfants, si tu les perturbes, si tu les bousilles comme lui a été bousillé, ben c'est sûr que ça a des effets dans le temps.
Ouais.
Moi, je trouve ça ahurissant de penser que quelqu'un a des enfants et il ne donne pas d'amour. Je comprends qu'on n'arrive pas tous avec le même coffre à outils, mais ça peut pas... On regarde l'exemple de Dan Bigra. Je veux dire, ton parcours de vie ne peut pas juste dépendre de ta résilience. Parce que, je veux dire, tu comprends, on n'a pas tous la même dose de résilience, mais nos parents peuvent tous nous donner la même dose d'amour. Puis lui, tu sais, on a tort de penser que c'est juste les milieux dits défavorisés. Dan Bigra n'a pas grandi dans un milieu défavorisé. Il a grandi dans un milieu très favorisé, mais en termes d'amour, il était défavorisé, il était pauvre.
Ouais,
c'est hallucinant quand on y pense.
Ah, absolument. Hey Patrick, on remet ça demain.
Ciao.
Salut, bye-bye. Patrick Lagacé, du lundi au jeudi, 7h15 à 7h25.